année-là, il venait de Pologne.
Très jeune, bon, elle ne pouvait pas nous voir non plus. Hein. C'est le Pologne qui nous appelait, c'est ça.
Moi, mes parents, ils venaient du Nord. C'est ce qu'on appelait les Camberlots.
Exactement. Mon pays, c'était Dentergen.
Il y a eu des Yougoslaves, des Serbes.
Et surtout les Italiens.
Au début, je me suis ennuyée à mourir, madame.
Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
On marchait à genoux, on marchait à quatre pattes.
C'est 4 ou 5 ans, il fallait 20 mineurs.
Moi, je suis venu en 1930.
8000 ouvriers pour faire les minages de métrage.
Travailler le nez bientôt collé au sol.
Non, vraiment, quand je pense à tout ça, je dis, c'est pas possible que j'ai fait tout ça. C'est pas possible. J'ai 82 ans, madame. Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Moi, j'ai été ici un des tout premiers à avoir une arracheuse décolleteuse.
Puis on disait toujours, on voudrait bien s'acheter une petite maison.
Dans la série d'émissions intitulée « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien, émission construite à partir des interviews de ceux et de celles qui ont participé à l'évolution de la culture betteravière, RVM tente aujourd'hui de comprendre comment ce travail était rémunéré et, malgré le recul du temps, d'évaluer l'importance des sommes gagnées par ce travail à la tâche pour la vie des ouvriers.
Le travail des betteraves était payé à la tâche, c'est-à-dire ni à l'heure, ni à la journée, mais selon le travail exécuté, mesurable en hectares, arts, centiaires de betteraves binées, arrachées ou chargées pour chaque équipe. La notion de temps n'intervient pas dans ce mode de paiement. Un ouvrier ou une équipe peuvent travailler deux fois plus vite que les autres, ils seront toujours payés sur la quantité de travail effectué. Moins d'un hectare ou 9 hectares, selon leur force physique, leur nombre ou leur ardeur.
Pour chaque façon, le prix de base était fixé à l'hectare avant la campagne. Un prix pour le binage qui comprenait le démarrage et un premier binage, puis le repassage, c'est-à-dire un second binage pour enlever les mauvaises herbes, les ravluches. Un autre prix était fixé pour l'arrachage et un troisième pour le chargement des tas. Pour le démariage-binage, le prix payé n'était pas forcément le prix de base par hectare fixé pour chaque campagne, mais celui qui correspondait au nombre de betteraves laissées par l'ouvrier par décamètre, comme l'explique un agriculteur du Valois.
Et puis ensuite, on était même arrivé, pour essayer d'avoir un travail plus fignolé, on était arrivé à payer les binages de betteraves avec une prime au nombre de pieds laissés. Mm-hmm. Alors là, il fallait que le géomètre fasse les mesures de superficie plus les comptages.
Essayons de comprendre ce mode de paiement. Le prix de base correspondant à 30 pieds laissés au décamètre était de 1960 francs anciens en 1945 et la prime de 30 francs par pied au-dessus de 30. C'est-à-dire que pour une parcelle d'un hectare, si l'ouvrier avait laissé 31 pieds, il touchait 1990 francs. Par contre, s'il n'avait laissé que 29 pieds, le prix de base était diminué de 30 francs et il ne touchait plus que 1930 francs.
On peut supposer que les parcelles payées au-dessus du prix de base compensaient celles qui étaient payées au-dessous, mais nous ne pouvons pas en apporter la preuve. Pour certaines parcelles, les exploitants étaient amenés à verser une prime supplémentaire lorsque le nombre de pieds ne pouvait manifestement pas être atteint. Cette façon de calculer les gains de chaque ouvrier, pour chaque parcelle, une fois le travail accompli et après le contrôle du contremaître ou du géomètre, explique l'incertitude des ouvriers sur ce qu'ils allaient gagner.
On ne pouvait jamais savoir au démarrage le prix. Hein, on avait... Il a du mal à le savoir. Hein. Mm. Puis c'était en fonction, suivant le nombre de pieds qui restaient. Mm. Parce que c'était contrôlé derrière.
Qui contrôlait ça?
Ah bah c'était le patron quoi.
Bien souvent c'était le commis quand ils s'emmerdouillaient pas les pieds dans la ficelle.
Oui.
Et favoritisme aussi, il faut pas l'oublier. Quand ils faisaient mesurer les betteraves comme ça, hein, quand ils on en donne deux, trois de plus. On les enlevait à l'autre.
Plus de 40 années après, certains ouvriers se souviennent à peu de choses près des prix payés.
Moi, quand j'ai arraché en 40... En 43, je crois. Ça devait être en 43 quand j'ai arraché tout seul. C'était ce qu'on appelait 1000 francs. Mais 1000 francs, pas maintenant, de l'hectare.
Mais je prenais de ce temps-là. Mais dis donc, à ce temps-là, quand je travaillais à la journée chez moi, chacun en était combien payé. L'angle des dés, on avait 12 francs par jour.
Ah oui.
Les autres fermes, ils n'avaient que 10 et 9.
Pour fixer un ordre de grandeur, rappelons qu'en 1932, le prix des binages était fixé à 300 francs anciens l'hectare, l'arrachage à 400 francs et le chargement 120 francs. Pour atteindre en 1949, 6600 francs pour les binages, 6800 francs pour l'arrachage et 2300 pour le chargement. Sur le travail à la tâche, l'opinion des ouvriers est très contrastée.
En un mois et demi, on gagnait à peu près ce qu'on gagnait en un an en ferme. Vous voyez ?
À la tâche.
Ah, ça, c'est... Ah, bah, ça, on connaissait que ça. Ça c'est... On ne regardait pas les heures, on commençait à 3, 4 heures du matin, puis c'était jusqu'au soir. Moi, je trouve que quand on travaille, il faut gagner sa vie. Et le seul moyen pour gagner à sa juste valeur, c'était de faire des travaux à tâche. Là, plus vous en faisiez, plus vous gagnez. C'est pour ça qu'on ne peut pas, comparer la vie d'aujourd'hui comme nous. Heureusement que ça n'existe plus, parce que... Heureusement, parce que... Alors j'aurais jamais voulu que mes enfants, ils vivent la vie que j'ai vécue. Ah ça non, j'ai tout fait pour qu'ils aient une vie meilleure que moi. Mais c'est bien sûr, on le paye plus tard. Aujourd'hui, on est usé.
Cette opinion est celle d'un ouvrier qui avait choisi de ne faire que des saisons à la tâche. Elle n'est pas partagée par un ouvrier permanent de Sennevières. Comme tant d'autres, il faisait les betteraves jusqu'au jour où, après une campagne pendant laquelle, avec un copain, il avait travaillé comme un fou. Ayant compté leurs heures de campagne, ils eurent la surprise de découvrir qu'ils avaient moins gagné en faisant les betteraves que s'ils avaient effectué, pendant le même temps, le travail ordinaire d'un permanent. Et pourtant, de nombreux ouvriers employés régulièrement dans les fermes firent les campagnes de betteraves. À des degrés divers, leur motivation était sans doute du même ordre que celle des saisonniers étrangers. Prendre le travail quand il est là, quand il est temps, pour combler un sentiment d'insécurité face à l'avenir. Obtenir une somme d'argent qui permettrait d'être un peu rassuré, ou au pire de survivre l'hiver suivant dans leur pays. Les ouvriers qui avaient un emploi toute l'année, comme certains employeurs, comprenaient très bien les raisons qui amenaient chaque année des groupes d'hommes, souvent seuls, originaires de pays lointains,
pour travailler de l'aube au coucher du soleil.
Les Italiens, ils venaient parce que chez eux, ils n'avaient pas de travail. Et puis, ils avaient quand même des avantages, certainement, à la ferme aussi. Bon, du fait qu'ils achetaient pas les légumes, déjà. Et puis, ils étaient payés comme les Français qui faisaient les betteraves. On leur payait le voyage. On les logeait. Hein.
Tant qu'on a eu les Polonais, ces gens-là, en général, on les nourrissait.
Ah oui.
Avec les... Quand on est arrivé avec les Italiens, on a commencé à avoir des équipes qui se nourrissaient eux-mêmes. Souvent, ils faisaient venir une femme avec eux. Par contrat, on précisait, se nourriront eux-mêmes. Alors, ils faisaient venir une femme avec eux. L'un venait, il y en a un dans l'équipe qui venait avec sa femme, ou un qui venait avec sa sœur, une chose. Et puis, la personne qui faisait ça était payée en conséquence, et c'était elle qui faisait la nourriture. On lui fournissait les éléments.
D'accord.
Et puis autrement, on les nourrissait. On sentait aussi chez certains que ces gens-là, une fois rentrés chez eux, ben, ils n'étaient pas heureux. Parce que ils vivaient ces saisonniers-là, par rapport même à nos ouvriers, ils vivaient très, très misérablement, très chichement au point de vue nourriture, quand ils se nourrissaient eux-mêmes, pour remporter toute leur paye. On sentait qu'ils avaient besoin de ça chez eux pour vivre.
Se nourrir soi-même était encore un moyen d'augmenter les gains, puisque d'une part, ils réduisaient la nourriture au minimum, et le prix de leur travail n'était plus amputé du forfait payé pour la nourriture. En 1945, les Belges nourris gagnaient 1300 anciens francs l'hectare pour l'ébinage, et les ouvriers non nourris, 1960 francs. L'obsession de tous les saisonniers était bien de ne faire aucune dépense superflue et de ramener le maximum d'argent chez eux. Le dépouillement d'un livre de compte des travaux à tâche effectué en 1946 dans une ferme de Saint-Patu nous donne le montant des gains versés à chaque équipe pour les journées passées au démarrage et au binage et la composition de l'équipe. Ces salaires concernent les ouvriers travaillant à la ferme et leurs familles. Sur 17 comptes, 8 sont le fruit du travail d'une seule personne, 6 celui de deux personnes, souvent l'homme et la femme, et 3 comptes rémunèrent un couple et un enfant, donc 3 personnes. L'écart entre les gains perçus va de 1 à 5, allant de 3300 francs anciens à 16 900 francs. Ces écarts sont le reflet des différences entre la force physique des personnes disponibles dans la famille, puisque pour un gain équivalent, les uns totalisent 51 journées de travail et d'autres 38.
Cette année-là, sur 17 ouvriers qui feront les betteraves, 9 femmes accompagneront leurs maris et ce sont les ouvriers qui travaillaient en couple qui gagneront les sommes les plus importantes. Mais les betteraves n'étaient qu'une partie des travaux à la tâche et avant la mécanisation, les femmes participaient à la fenaison, à la moisson, au ramassage des pommes de terre. En 1946, dans la même ferme, l'une d'entre elles a ramassé 1006 sacs de pommes de terre à 6 francs le sac. Elle a pu gagner ainsi 6 000 francs. Cette somme correspondait cette année-là, grosso modo, au salaire de la moisson. On peut mesurer par ces quelques chiffres l'importance du travail à la tâche pour les femmes qui ne trouvaient pas à s'employer régulièrement dans les fermes.
Oj, mam starego męża, myśli do nalicy. Oj, mąż jest mi, do mnie przyjdzie. Oj, to.
puisqu'il est impossible de retrouver l'ensemble des gains perçus par famille, dans une ferme donnée, il est bien difficile d'imaginer aujourd'hui ce que pouvait représenter l'apport financier de la campagne des betteraves dans le budget des ouvriers. Par contre, leur souvenir sur la difficulté de vivre ne permet aucune illusion sur l'angoisse du lendemain qui les poussait à prendre tout le travail qui se présentait.
Une commerçante de Mulhouse se souvient de la situation des Polonais qui arrivaient vers 1938.
Moi, oui, toute commerçante que j'étais, je leur faisais un crédit. Bon, alors, ils avaient tous chacun un livre et je marquais sur leur livre comme sur le mien ce qu'ils prenaient. Alors ça les avantageait parce qu'ils payaient qu'après, quand ils avaient touché leur paye. Alors quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas le sou. Alors moi je voulais bien faire crédit, mais il fallait que ça rentre aussi, moi, pour moi. Mais aussitôt la paye, ils venaient me payer, puis on recommençait tout le temps. Ils ont vécu presque tout le temps comme ça.
Ça vous faisait une drôle de comptabilité.
Ah bien. Bah oui, bien sûr, parce que il passait le matin, il me disait ce soir c'est la paye, préparez les livres, voilà. Ils ont toujours, il y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas que les Polonais qui ont été au livre, vous savez. Il y a eu des Français aussi.
Vous en faisiez combien de livres comme ça?
Oh, quand pendant un moment, j'en avais une drôle de pile là. Bah, oui, parce que c'était, on pouvait tout de même pas les laisser mourir de faim. Vous savez, parce qu'il n'y avait pas à dire « tenez-moi en avance », il ne l'aurait pas eu alors.
Mais ses souvenirs plus anciens sont encore plus parlants.
J'étais domestique dans une boucherie, dans la boucherie de mai. Et alors, quand je voyais ça, ça me faisait mal au cœur quand même, parce qu'ils appelaient ça des petites, eux. Ils ne savaient pas parler. Oui. Alors, des petites. Alors, c'était, vous savez, chez un boucher. Avant, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de glacière, il n'y avait rien du tout. C'était, la viande, elle était sous tamis,
accrochée.
Alors, tous les matins, il fallait arranger la viande. Alors, tous ces espaces qui étaient brunis, alors on coupait ça en petits morceaux et on faisait des paquets. Alors, ils venaient acheter ça. Ils faisaient cuire ça.
Ça s'appelait des rognures.
Des rognures.
On comprend mieux l'importance de produire eux-mêmes des légumes et d'élever des porcs et des volailles.
On avait beaucoup de bêtes. On avait beaucoup de bêtes. Ah. Maman faisait la soupe au lard. La soupe au lard, au lard maigre. On mettait des carottes, des poireaux, des pommes de terre, des navets, des haricots. Alors le lard, c'était pour ceux qui travaillaient, madame. Nous, les enfants, ceux qui ne travaillaient pas, on nous mettait un bout de saindoux. Avec nos légumes, on écrasait ça, et puis des poivres, du sel, et puis ça y est. Et personne n'a mal à l'estomac chez nous. Personne.
Et ça, presque tous les jours.
Le soir, il y a la soupe. La soupe à midi, la soupe au soir. Avec du pain dedans, il n'y avait pas de croûte.
C'est pour cela que l'on se souvient des employeurs qui rendaient la vie un peu plus facile.
Mais notre patron, il était très gentil. Quand on avait du bois, acier et tout ça, alors on lui disait juste si on pêchait du bois, il nous disait oui, il ne nous prenait rien pour le courant, ni rien du tout. Hein. Il nous donnait des chevaux pour notre bois, pour ramener à la ferme, pour scier, pour ramener chez nous après. Il nous donnait la terre aussi quand on travaillait. Il nous donnait des carrés de terre, quoi. Et puis on plantait avec ses outils et tout ça, quoi. Et puis après, pour arracher nos pommes de terre aussi, pareil. Il nous donnait la machine. Il comprenait un peu peut-être plus que ce que c'est. Les pauvres, quoi, la misère.
C'était L'homme et la betterave à sucre, 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulhousien. Aujourd'hui, la rémunération du travail. Réalisation RVM.
Vous venez d'entendre un épisode de la série radiophonique L'homme et la betterave à sucre, 100 ans de mémoire collective du Valois, une série de 15 émissions produites par RVM en 1994 et 1995.